Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 15h en temps universel, 16h à Paris et à Berlin. Le journal vous est présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. On prend le même et on recommence en Allemagne. Olaf Scholz a été officiellement désigné comme candidat des sociodémocrates pour les législatives anticipées, malgré la chute de sa coalition et malgré sa popularité en Berne. Aux Émirats arabes unis, les autorités ont annoncé que les meurtriers présumés d'un rabbin israélo-moldave étaient de nationalité ouzbek. L'État du Golfe est rattrapé par la guerre au Proche-Orient et son rapprochement avec Israël depuis les accords d'Abraham. Et puis on s'évadera en musique à la fin de ce journal. Le roi de la soul d'origine ougandaise, Michael Kianuka, sort son 4e album. En Allemagne, la fronde au sein des sociodémocrates n'a pas emporté Olaf Scholz. Le chancelier a été officiellement désigné candidat pour le SPD aux élections anticipées de février. Malgré sa cote de popularité au plus bas, malgré l'implosion de son gouvernement de coalition avec les libéraux et les verts au début du mois, dans les sondages, l'opposition conservatrice de la CDU et l'extrême droite de l'AfD devancent le parti d'Olaf Scholz. À Berlin, Pascal Thibault.
Maire de Hambourg, ministre avec différents portefeuilles, vice-chancelier et chancelier depuis 3 ans, le co-président du SPD, Lars Klingbeil, énumère les responsabilités passées et actuelles d'Olaf Scholz. Le message est clair, dans cette période des plus troublées en Allemagne et au-delà, le pays a besoin d'un capitaine expérimenté. Le concurrent d'Olaf Scholz, le chrétien-démocrate Friedrich Merz, dont le parti fait la course en tête dans les sondages et qui a de bonnes chances d'être le futur chancelier, n'a lui jamais eu de responsabilité exécutive, Olaf Scholz.
Il y aura un débat sur le choix du chancelier et je ne me fais pas de soucis sur la réponse des électeurs. Vaut-il mieux choisir quelqu'un qui ne se laisse pas mettre sous pression et qui ne perd pas ses nerfs? C'est ce que je promets aux électeurs.
Après le cafouillage la semaine dernière autour d'une possible candidature du populaire ministre de la Défense Boris Pistorius, la direction du SPD a serré les rangs ce lundi, désignant Scholz à l'unanimité. L'intéressé veut continuer à soutenir l'Ukraine contre ceux qui s'y opposent, tout en évitant une escalade avec Moscou, ce que les conservateurs pourraient faire d'après Scholz. Le chancelier les accuse de vouloir sacrifier les réformes économiques et le social sur l'autel de la sécurité, ce que lui récuse. Olaf Scholz veut que son parti arrive en tête lors des élections du 23 février. Avec un tiers des intentions de vote aujourd'hui pour les chrétiens démocrates et à peine la moitié pour le SPD, ce pronostic est ambitieux. Pascal Thibault, Berlin RFI.
L'aide à l'Ukraine est au cœur des discussions politiques en Allemagne, mais aussi en Roumanie. Et c'est peut-être une clé pour comprendre le résultat du premier tour de la présidentielle hier. Contre toute attente, Calin Georgescu est arrivé en tête du scrutin. Personne ne l'attendait. Sa campagne TikTok s'est emballée ces derniers jours avec un mot d'ordre. Stopper l'aide à l'Ukraine pour, dit-il, préserver la paix, alors que la Roumanie a un rôle stratégique dans l'OTAN face à la Russie. Avec un discours anti-système et complotiste, Calin Georgescu a axé sa campagne sur le pouvoir d'achat et les préoccupations quotidiennes des Roumains. Les législatives prévues dimanche prochain, avant le second tour de la présidentielle, pourraient confirmer la montée en flèche de l'extrême droite dans le pays. En Géorgie, le Parlement s'est réuni aujourd'hui pour la première fois en pleine crise politique depuis les législatives. Des élections truquées par le camp pro-russe, dénonce l'opposition. La séance s'est tenue sans attendre la décision de la Cour constitutionnelle qui n'a pas encore statué sur la validité du scrutin. L'opposition a boycotté les débats et appelle à une grande manifestation à Tbilissi. La guerre en Ukraine est au cœur des bouleversements politiques en Europe. Depuis le Cambodge, le secrétaire général des Nations Unies a lui dénoncé la menace renouvelée des mines antipersonnelles. Les États-Unis ont déclaré qu'ils fourniraient ces armes aux forces ukrainiennes pour lutter contre l'invasion russe. Une déclaration du patron de l'ONU à l'ouverture de la conférence de révision du traité d'Ottawa. C'est un accord international majeur dans l'histoire de la protection des civils qui interdit notamment l'emploi et le transfert des mines antipersonnelles. Malgré les efforts, le nombre de victimes a augmenté de 22% l'an dernier. Des survivants comme Émilie Watt, cambodgienne de 49 ans, viendront témoigner et sensibiliser sur l'importance de l'assistance aux victimes. Émilie Watt a perdu sa jambe à l'âge de 6 ans lorsque sa famille fuyait les persécutions des Khmers rouges. Son témoignage a été recueilli par Yelena Tomic.
Le seul truc que je me souviens, c'est que ça faisait un grand boom, mais il y avait un trou noir. Quand je me suis réveillée, j'ai bien vu la chair déchiquetée et je voyais un bout d'os. Enfin, je voyais bien que ma jambe était partie. Quand ils m'ont ramené au camp, ils m'ont enroulé la jambe avec des torchons et ils m'ont transporté sur une civière une dizaine de jours. Et quand nous sommes arrivés au camp à Khao Idan en Thaïlande, on a vu un médecin, il a enlevé le tissu, il a vu l'état de ma jambe. Il y avait des chenilles, ils m'ont mis dans le coma pendant un mois. Au réveil, dans ma tête d'enfant, tout ce que je voulais, c'était me lever et continuer à marcher. Pour pas que les gens les oublient, il y a beaucoup de pays où il y a encore des mines antipersonnelles. J'espère juste que les autres enfants, ils auront plus de soutien derrière eux que nous, à l'époque, il n'y avait rien. Avec ce traité, on espère que les pays vont continuer à soutenir cette action parce que c'est super important. Il ne faut pas que les pays ils oublient. C'est quand même des humains qui ont fait ça. Il ne faut pas croire que c'est fini. Pour moi, ce n'est pas fini. Il y a encore ces engins-là qui tuent, qui blessent.
Au Proche-Orient, les frappes israéliennes continuent. Au Liban, 12 personnes ont été tuées et 8 autres blessées dans 2 secteurs de la région de Tyr, dans le sud du pays aujourd'hui. Aux Émirats arabes unis, les autorités ont annoncé que les meurtriers présumés d'un rabbin israélo-moldave étaient de nationalité ouzbek. 3 suspects avaient été arrêtés ce week-end. L'assassinat du rabbin a été vécu comme un choc dans la communauté juive des Émirats, d'autant plus que le pays avait normalisé ses relations avec Israël en 2020, avec les accords d'Abraham, et le pays est ultra sécurisé, comme l'explique Philippe Petria, maître de conférence à l'université de Paris 1, spécialiste du Golfe, interrogé par Muriel Paradon. On l'écoute.
C'est un pays qui est à la fois très calme et surtout très sécurisé. Je dirais qu'il est d'autant plus calme qu'il est sécurisé. Depuis 2011, mais surtout 2015, il y a une série de lois qui ont été passées au motif de la lutte contre l'antiterrorisme, qui ont quand même généralisé un système de surveillance à la fois physique, électronique, disons même économique à l'ensemble de la population nationale et non nationale, qui fait que probablement en termes de surveillance de la population et donc de sécurisation, c'est le pays le plus avancé du Golfe. Donc oui, c'est à la fois très calme, très sécurisé, et en même temps, depuis la guerre à Gaza, tout ce qui a été tué depuis les accords d'Abraham, donc les réticences de la population qui étaient tuées à cause des surveillances, bon là, deviennent de plus en plus difficiles à museler, ou en tout cas à faire disparaître des réseaux sociaux, l'expression des opinions. Donc malheureusement, je ne sais pas du tout qui sont les auteurs de l'attentat, mais c'est a posteriori, ça paraît assez normal en fait, qu'il y ait une réaction qui s'en prenne en fait, j'imagine derrière l'assassinat de ce rabbin, en fait, à la politique générale de l'Émirat.
Et de la culture qui sauve, pour finir ce journal avec notre choix musical du jour, José Marinho nous présente le 4e album du maître de la soul d'origine ougandaise, Michael Kianuka.
À 37 ans, la voix d'or de Michael Kianuka porte au plus haut l'étendard de ses racines ougandaises et atteint des sommets sur ce disque. People keep talking about how pots don't melt. Ses parents ougandais ont fui le dictateur Idi Amin Dada. Exilé à Londres, il y bâtit sa carrière empreinte d'identité africaine. Son nouvel album est traversé d'influences rock des années 70 venues de Zambie et du Nigeria. Comme il le rappelait dans ses disques précédents, Michael Kianuka n'oublie jamais qu'il est un homme noir dans un monde de blanc et incite au rassemblement notamment sur cette chanson. En une dizaine d'années, l'Ougandais Michael Kianuka, chanteur mais aussi guitariste et compositeur, s'est imposé comme une figure majeure de la soul du 21e siècle.
Michael Kianuka qui se produira le 28 février 2025 à Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal. Et tout de suite, Jean-François Cadet, bonjour.
Bonjour et merci, c'était le journal de Karine Bellige.